ça va faire des histoires.
Oh, ça va faire des histoires.
Ça va faire des histoires.
Ça va faire des histoires.
Oh, ça va faire des histoires.
Ça va faire des histoires.
Ça va faire des histoires. Une émission proposée par le conteur Michel Lidoux. Des histoires, des contes, des reportages, des informations. Bref, enfin tout ce qu'il faut savoir quand on aime les histoires.
Amis des histoires, bonsoir ou bonjour. Avec cette nouvelle émission, on va quitter la Bretagne. On va aller dans le pays niçois, dans les Alpes-Maritimes, où j'ai eu la chance de rencontrer la conteuse Isabelle Pozzi. Isabelle est conteuse pour les petites et les grandes oreilles depuis 2004. Isabelle promène ses mots partout en France où la parole est libre et partagée. Bonjour Isabelle. Isabelle Pozzi, c'est ça ?
Alors, Isabelle Pozzi, oui, à l'italienne.
À l'italienne. Comment vas-tu, Isabelle ?
Écoute, je vais très bien et je suis ravie de te retrouver ce matin.
Alors, comme je ne sais pas si tu sais, le principe de mon émission, la première question que je pose à tous les amis conteurs que je rencontre, c'est une question qui est pour moi très importante, c'est Isabelle, comment est-ce que tu es tombée dans la marmite du conte ?
Vaste question. Alors, comment je suis tombée dans la marmite du conte ? Je pense que j'y suis tombée très tôt, sans le savoir, avec une grand-mère qui ne savait pas elle-même qu'elle était conteuse et qui pourtant était vraiment une conteuse née. Elle ne racontait pas des contes, elle racontait ses anecdotes de jeunesse, les fous rires ou les aventures qu'elle avait pu vivre avec ses copines ou la famille. Et en général, elle déclenchait de grands éclats de rire parce qu'elle avait vraiment le talent de raconter et d'imager ce qu'elle racontait. Et j'aurais pu passer des heures à l'écouter. Ça a été certainement la première conteuse de ma vie. Et puis plus tard, j'ai eu un parcours littéraire, j'ai aimé les textes écrits. J'ai écrit assez vite. Et puis j'ai aimé aller notamment dans les festivals du conte, un peu partout, et surtout dans les Alpes-Maritimes, où nous avions jusqu'à il y a pas très longtemps un très beau festival du conte international qui a vécu 25 ans, si ma mémoire est bonne. Voilà, aujourd'hui il n'est plus, mais il y a plein d'autres festivals dans la région, donc des Alpes-Maritimes, dans le département des Alpes-Maritimes.
Comment s'appelait ce festival ?
Le Festival du Conte des Alpes-Maritimes.
D'accord.
Voilà. Où j'ai fait la connaissance d'ailleurs de beaucoup de mes amis et collègues d'aujourd'hui, conteurs. Voilà. Et à l'époque, je ne comptais pas du tout. Par contre, j'étais ravie d'aller remplir mes oreilles et mes émotions en écoutant les conteurs et conteuses sur ce festival. Et puis un jour, le hasard qui n'en est jamais un, une rencontre, une jeune institutrice qui était en formation dans l'école dans laquelle je travaillais, moi à la bibliothèque encore avec les livres, avec les textes, me dit « Écoute, je t'ai entendu raconter des histoires aux enfants, tu devrais venir avec moi, je fais partie d'un groupe de conteurs, je t'invite à venir, c'est ce soir. » Donc c'est ce soir, j'y suis allée. C'était des conteurs amateurs et professionnels, et je ne suis plus jamais sortie du conte à partir de ce jour-là. Et j'ai commencé assez vite à raconter en public. Je me suis mise en danger très vite d'être écoutée et regardée par des oreilles inconnues. Moi qui ne savais pas parler, qui ne savais qu'écrire, je savais très peu dire les choses importantes avec ma voix, trop dans l'émotion, etc. Et j'ai appris par le conte, par la magie du conte, à pouvoir enfin poser des mots sans trop d'émotions, en apprivoisant tout ça. Voilà, et donc ça a été le début d'un long chemin qui continue.
Tu avais quel âge à l'époque ?
Ouh, j'étais une toute petite fille de... Non, j'avais 25 ans à peu près, oui, 25 ans.
Et depuis, tu continues et tu n'arrêteras plus ?
Et depuis, je continue et je crois que je suis addict en fait. Je ne peux plus m'arrêter. Non, je crois que les contes, une fois qu'on tombe dedans, c'est pas par hasard. Ils nous ont appelés, ils ont quelque chose à nous dire et on a quelque chose à dire à travers eux. Et je crois qu'une fois qu'on connaît le bonheur de se laisser traverser par un conte et d'en recevoir toute l'énergie, c'est une vraie drogue. C'est-à-dire que c'est un bonheur et c'est une énergie vitale dont on ne peut plus se passer, en fait.
Dis-moi, Isabelle, en principe, les conteurs, ils ont un univers personnel, souvent inspiré de leur culture propre. Est-ce que toi, on pourrait dire que tu as un univers spécial, une spécificité? Dis-moi, c'est quoi ton univers?
Oui, si je devais en avoir d'univers ou une spécificité au fil des ans, ce serait à la fois mes origines qui sont le Grand Sud, on va dire, que ce soit la Corse, les Alpes-Maritimes, la Provence en général, mais aussi la culture tzigane dans laquelle je n'ai pas été élevée, mais dont je viens aussi par un arrière-arrière-grand-père. Et il y a des choses qui se passent quand même, même si elles ne sont pas dites. Et qui nous anime. Un jour, on découvre pourquoi. Voilà. Donc, j'ai découvert l'arrière-arrière-grand-père sur le tard, mais il est là, il est très présent. Et puis, à travers tout ça, quand même, quelque chose de très animiste, de très proche du vivant, de façon générale, de très terrien et de très païen, d'ailleurs. Voilà. Donc, vraiment, les énergies des premiers peuples. Qui sont aussi les peuples de nos campagnes hein, actuelles. En Bretagne, tu en sais quelque chose?
Oui. Écoute, tu me parles de ton grand-père. J'aimerais que tu me précises un peu plus comment est-ce qu'il t'a impressionné. Comment ça se
Je
passait?
ne l'ai jamais connu puisque c'est un
Arrière,
arrière-arrière-grand-père.
arrière, oui.
Mais c'est un homme qui faisait partie du peuple Sinti, donc des Tziganes d'Europe de l'Est plutôt, et qui étaient immigrés en Italie et puis ensuite en France à Nice, puisque je suis née à Nice et que je vis à Nice, dont on ne parlait pas, en tout cas pas en ces termes dans la famille, parce que c'était mal vu d'être Tzigane, déjà à l'époque. Mais quand je voyais les photos de famille, de ma famille que j'ai connue, quand je voyais comment se passaient les réunions de famille, ça ressemblait plus à un campement de Tziganes qu'à autre chose, clairement. On était d'origine italienne, on est d'origine italienne et provençale, mais oui, c'était les guitares, c'était des chants qui étaient fortement imprimés par ces cultures-là. Alors, on ne le disait pas, mais il y a des choses qui, dans le sang, dans les gènes, dans la culture, dans les non-dits, passent de toute façon. Et ça, je trouve ça passionnant, parce que les non-dits, on dit souvent que c'est très lourd dans une famille, ça peut être aussi de très beaux coffres au trésor. Et dans mon cas, ça a été le cas. Voilà.
Alors, est-ce que tu travailles toujours? Est-ce que tu as des projets? On peut aussi en profiter de ce malheureux Covid qui nous bloque pour certains créer, d'autres sont malheureux. Est-ce que toi, tu travailles, tu as des projets? Est-ce que tu as une nouvelle actualité?
Alors, comme beaucoup d'entre nous, je suis frustrée, dépitée et en manque de vraies relations directes, de regards, d'étoiles dans les yeux, de pouvoir raconter en vrai, en chair et en voix à un public, à des publics. Donc ça, c'est, je crois que on l'a en commun, hein, tous. Les dates se sont annulées, voilà, d'autres reportées. Bon, allez, n'en parlons plus, parlons du positif. Quand on ne peut pas avancer d'un côté, il faut essayer de passer d'un autre côté. J'ai des projets, j'ai deux projets notamment avec la compagnie de la Hulotte avec laquelle je travaille depuis bientôt 2 ans, qui est une compagnie d'artistes de la parole, chanteurs, conteurs, écrivains, oui, auteurs, calligraphes, et qui est aussi un centre de formation aux arts de la parole. On a un projet autour du conte et du handicap dans les Alpes-Maritimes, donc voilà, c'est en cours, c'est en train de se construire pour aller offrir l'outil conte dans les institutions pour personnes porteuses de handicaps mentaux notamment. Et puis un projet sur le conte et sur l'opéra à destination des scolaires avec une collègue qui est cantatrice, qui passera aussi par la compagnie de la Hulotte, qui me soutient énormément et avec qui j'ai un bonheur particulier à travailler. Les autres projets sont avec la compagnie Arte Flamme, qui est une compagnie de fous qui jongle avec du feu,
wow. On peut
dire, et qui jongle avec du feu et qui marche perché sur des échasses très très hautes. Moi j'ai très peur pour eux tout le temps, mais eux font ça très bien, et qui m'ont invité il y a à peu près 2 ans aussi à intégrer leur troupe en tant que conteuse. Hein. Je te rassure tout de suite, Michel, je ne touche pas au feu. Donc en tant que conteuse, et outre les spectacles qui sont diffusés par cette compagnie que je propose, juste en tant que conteuse, on a en ce moment, en construction depuis un moment déjà, un spectacle de conte et feu où je me charge évidemment du texte et de la narration et où nous avons notre musicien magicien Ewen Faust qui nous fait les musiques et Anatole Houard qui est le chef des faunes qui s'occupe de tout ce qui est chorégraphie et jonglage de feu. Ça a été retardé aussi par le Covid parce que c'est difficile de se rencontrer, de répéter ensemble, de voyager pour se retrouver dans des lieux propices à ça. Parce que quand on jongle avec du feu, on ne le fait pas n'importe où non plus. Voilà, donc ça a été retardé, mais, voilà, mais certainement pas annulé. On est en pleine création et on travaille beaucoup et ça devrait sortir pour 2021 si Saint-Covid nous le permet.
Viva, viva.
écoutez, ça va faire des histoires. Une émission de Michel Vitou.
Alors, dis-moi, Conte et Feu, c'est ça, Conte et Feu. Donc, cette compagnie a déjà un site. Où est-ce qu'on peut les voir, les joindre? Est-ce que tu peux me donner les liens qui vont pour découvrir un peu cette compagnie de feu? Ainsi que le tien, bien sûr.
Pour la compagnie Art et Flamme, on tape dans n'importe quel moteur de recherche compagnie Art et Flamme, avec oui. un S à la fin, et on va tomber sur leur site, qui est absolument sublime d'ailleurs. Quant à la compagnie de la Hulotte, de la même façon, comme la petite chouette, compagnie de la Hulotte, et on va tomber sur un site magnifique où on a tous les artistes d'abord de la compagnie, parce qu'on y est beaucoup dans l'une et dans l'autre, et puis toutes nos activités, tous nos spectacles, toutes nos dates, vous allez trouver tout ce qu'il vous faut.
Et on peut aussi retrouver ton site, je suppose que tu as un site internet. Il suffit de taper Isabelle Pozzi, c'est ça?
Isabelle Pozzi, conteuse, formatrice, autrice, et vous tombez sur mon site directement.
Alors, justement, tu m'as dit formatrice. Parle-moi un petit peu, c'est quoi? Donc, tu as deux casquettes. Tu fais de la formation.
J'ai plusieurs vies, Michel. Alors, formatrice d'abord, parce que j'ai été longtemps formatrice de la formation professionnelle pour adultes. Mon métier premier à l'origine, c'est animatrice, culture, socio-culturelle et socio-éducative. Et l'âge venant, tu sais peut-être ce que c'est, et l'expérience arrivant, je suis devenue formatrice pour transmettre mon savoir-faire d'animatrice à des plus jeunes et puis leur laisser aussi la place sur le marché du travail dans l'animation pure qui demande beaucoup d'énergie. Donc j'ai formé de jeunes animateurs, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, animateurs pendant plus de 10 ans dans différents centres de formation. Voilà, pour animer des publics très divers qui vont des très jeunes enfants jusqu'aux personnes âgées en maison de retraite en passant par les personnes adultes ou jeunes porteuses de handicap. Aujourd'hui, je ne travaille plus ou seulement en tant qu'intervenante dans ces organismes de formation, mais je forme toujours des gens aux arts de la parole. J'ai notamment au sein de la compagnie de la Hulotte deux formations, l'une qui s'appelle « Compter pour les bébés », donc à partir de 0 jusqu'à 3 ans, mais une fois qu'on sait compter pour les bébés, je crois qu'on sait compter pour tous. C'est le public le plus exigeant qui existe.
Tout à fait,
et
oui.
puis une formation qui est lecture à voix haute, qui normalement se déroule entre 2 et 3 fois par an, mais bon, là, pour cause de Covid, c'est plus compliqué.
Oui,
là
tout aussi. À fait, c'est compliqué pour tout le monde. Donc cette formation, est-ce qu'il faut avoir déjà une expérience du conte ou bien c'est ouvert à celui qui a envie de raconter?
C'est ouvert à celui qui a envie de raconter, qu'on soit parent, grand-parent, éducateur, animateur, professeur, conteur. C'est ouvert à celui qui a envie de raconter, qui ne se sent pas très à l'aise avec les tout-petits, qui est vraiment un public très particulier. Alors, je le propose voilà, de façon en milieu ouvert. Voilà, je propose une salle et un lieu pendant 2 jours. Sinon, je peux le proposer aussi dans des milieux professionnels, pour des assistantes maternelles, pour... plein de personnels de bibliothèque, par exemple, qui ont envie ou dont la hiérarchie leur demande de se former. Voilà.
Si vous êtes responsable d'une crèche ou bien dans les environs de Nice, eh bien, voilà, vous pouvez contacter Isabelle.
Avec grand plaisir. Thank you.
Alors, Isabelle, je vais te demander maintenant, s'il te plaît, raconte-moi quelque chose.
Alors, je vais te rejoindre sur tes terres de Bretagne, Michel.
Ah, avec plaisir,
en plus. Parce qu'on partage tous les deux. Je sais que tu le dis, et je le dis aussi, et je l'aime particulièrement. Et c'est le conte, pour tout te dire, qui m'a donné envie de devenir conteuse un jour. Et je l'avais entendu, rendons-lui hommage, je l'avais entendu de la bouche de Michel Bouet. Et depuis, voilà, depuis j'ai eu envie et je l'ai fait. Alors, on est parti. Sur la terre de Bretagne, il y avait un gamin qui gardait ses vaches. Sous ses pieds, il y avait la roche, à peine recouverte par de l'herbe rase. En face de lui, il y avait l'océan, à perte de vue. Derrière lui, des murs de pierre sèches, qui délimitaient les prairies et les protégeaient. Et puis autour de lui, il y avait le vent. Petit Jean, c'est comme ça qu'il s'appelait. Petit Jean, il aimait bien, quand il gardait ses vaches, sentir le vent sur sa peau, entendre son chant, et puis goûter les embruns salés sur ses lèvres. Ce matin-là, le vent s'était levé si fort que petit Jean s'était réfugié assis par terre, le dos collé à un mur de pierre sèche. Et puis les bourrasques avaient redoublé, alors petit Jean s'était retrouvé le visage collé contre le mur de pierre, son oreille tout contre les pierres. Et là, peu à peu, avec le bruit du vent, c'était comme s'il avait collé un coquillage à son oreille. Il a commencé à entendre le frôlement des petites pierres les unes contre les autres. Il a commencé à entendre le chant du vent à travers les pierres du mur. Et peu à peu, c'est tout un langage qu'il a entendu. Quand tout à coup, là, juste au-dessus de son épaule gauche, il a entendu très distinctement des gémissements, des pleurs. Alors il s'est retourné, il a regardé, il a cherché d'où ça venait. Bon, il n'a pas cherché bien longtemps. Il a vu, là, juste au-dessus de son épaule, une grosse pierre blanche, polie, comme un galet, avec des éclats de quartz dedans. Elle était en train de glisser, de tomber du mur, coincée entre deux autres plus grosses qui semblaient vouloir s'en débarrasser. Petit Jean, il a posé sa main sur la pierre, et la pierre, elle a arrêté de pleurer. Puis elle s'est mise à parler. Petit Jean, sois gentil, trouve-moi une vraie place dans le mur. C'est pas ma place ici, tu vois bien, je vais tomber. Moi, ma place, elle est en haut, pour pouvoir surveiller la mer et puis pour pouvoir éclairer mes sœurs quand les derniers rayons de soleil viendront se refléter sur mes éclats de quartz. Alors, petit Jean, il n'a pas réfléchi. Il a pris la pierre dans sa main et il a cherché en haut du mur une place pour cette pierre-là. Et il a trouvé. Il a trouvé juste la place qui lui correspondait. Il a posé sa pierre, il s'est assuré qu'elle y était bien. Et quand il l'a vu se détendre, quand il l'a entendu soupirer, il a su qu'il avait fait ce qu'il fallait. Ce matin-là, petit Jean, il a compris que désormais, il comprendrait le langage des pierres. Et depuis ce temps-là, les gens du pays voyaient petit Jean tous les matins partir et aller inspecter ses murs de pierre, coller son oreille au mur et écouter les pierres. Il le voyait défaire, déconstruire des pans de murs entiers pour les reconstruire, patiemment, à l'écoute, tendrement, chaque pierre à sa juste place. Les gens ont commencé à penser que petit Jean avait perdu une partie de son bon sens. Parfois, il restait le long des murs et il chantait. Il chantait à ces murs de pierre et le vent ramenait son chant vers les gens du pays qui n'en revenaient pas. Et ça faisait Pour la côte à la nuit tombée, on danse encore sur des violons. Dans les murs, quand le vent est bon, la voix des pierres me fait rêver. Et l'accordéon du vieux Joe balance le vieil air du matelot. Trouve des embruns au fond des yeux, et ça te reprend chaque fois qu'il pleut. Mais les gens l'aimaient bien. Alors ils ont arrêté de l'appeler Petit Jean. Et ils ont commencé à l'appeler Jean des Pierres. Et puis avec le temps, ils ont bien été obligés de se rendre compte que tous les murs que Jean des Pierres avait reconstruits tenaient mieux que les autres. Ils ont bien été obligés de se rendre compte qu'à chaque gros coup de vent, ils avaient de moins en moins besoin de perdre leur temps et leur santé à les reconstruire, ces murs, parce qu'ils tenaient bon. Alors, petit à petit, sans trop se l'avouer, chacun est allé demander conseil à Jean. Chaque fois qu'il y avait un nouveau mur à construire, un pont, une digue, on allait demander à Jean des pierres, des conseils. Et force était de constater que chaque fois que Jean se mêlait de victoire, eh bien, l'édifice tenait mieux, tenait bon. C'est comme ça que Jean des Pierres a trouvé tout naturellement son métier, le seul métier qu'il pouvait exercer et qu'il était le seul à pouvoir exercer. Il était conseiller en construction en pierre sèche. Il a passé sa vie à conseiller. Et les gens du pays ont passé leur vie à être rassurés par les conseils de Jean. Puis vous savez ce que c'est ? Quand les années passent, les murs tiennent bon, souvent, mais les hommes, eux, ils vieillissent inexorablement. Un triste matin, Jean s'est réveillé, perclus de douleur comme il était depuis quelques années. Il s'est levé et, comme tous les matins, il est parti voir ses murs. Il a collé son oreille à un mur qu'il connaissait bien. Mais au lieu d'entendre la conversation des pierres comme à son habitude, il a entendu un brouhaha informe de sons qu'il ne comprenait pas. Il a insisté. Et il a très vite compris que l'âge venant, le don le quittait. Alors, désœuvré, vidé de toute envie, Jean est rentré chez lui. Il s'est couché et il a dormi. Cette nuit-là, dans le pays de Bretagne, le vent s'est mis à souffler si fort que même les murs de la maison de Jean semblaient trembler sous le vent. Il a été réveillé, oh, pas par le vent, par une voix de pierre. Il a été réveillé par une voix qu'il connaissait très bien. Il s'est dit que c'était peut-être la dernière fois qu'il entendrait une pierre lui parler. Et puis cette pierre, elle souffrait. Elle était là-bas, au loin, dans le froid, dans le vent. Il ne pouvait pas le supporter. Alors, malgré son âge, malgré le froid, malgré la tempête, il s'est levé. Il a revêtu son lourd manteau et il est sorti dans la nuit. Il est allé rejoindre directement le mur de pierre qu'il connaissait bien. Il a trouvé tout de suite la pierre qu'il cherchait. Au petit matin, sa famille, ses amis, se sont inquiétés de ne pas le trouver dans son lit. Alors tout le pays s'est mis à la recherche de Jean des Pierres. Tout le monde le connaissait et l'aimait. Ils sont allés naturellement vers les murs. Et au pied d'un mur à moitié écroulé, ils ont retrouvé Jean, étendu. Vous me croirez ou vous ne me croirez pas, mais aucune des pierres n'avait blessé Jean. Lui, il avait un sourire béat et ses yeux étaient perdus dans l'ailleurs. Il serrait contre son cœur une pierre ronde, blanche, polie, avec de très jolis éclats de quartz. Sa pauvre tête s'était perdue à cause d'une pierre qui souffrait quelque part dans un mur. Pour tout le temps qui lui est resté à vivre, Jean s'est promené le long des corniches, le long des murs de pierre. Il a continué à leur parler, même s'il n'entendait plus vraiment leur langage. On le voyait se promener, serrant dans ses bras un gros galet blanc qu'il portait comme on aurait porté un enfant. Bien sûr, le temps est passé et Jean n'est plus. Mais ces murs, eux, sont restés debout, certainement, et si jamais vous passez en pays de Bretagne, vous aurez peut-être la chance d'en croiser. Vous saurez que c'est un mur de Jean des Pierres, parce que vous l'entendrez chanter dans le vent. Et si le vent est bon ce jour-là avec vous, vous entendrez aussi peut-être encore la voix de Jean portée par le vent. Vous l'entendrez chanter encore et encore. Y a le temps qui mouille au dehors, dans la voilure y a le vent du nord, les yeux des filles belles à aimer, et la chanson qui te fait pleurer. Et même si t'as pas navigué, t'as le droit de boire avec les autres, t'as construit les murs de la côte, à présent le vent peut gueuler.
Vous écoutez Ça va faire des histoires, une émission de Michel Vitoux.
Alors, dis-moi, Isabelle, est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas évoqué et que tu aimerais qu'on en parle avant de clore cette émission ?
Écoute, oui, pour rebondir d'ailleurs sur tout ce qu'on vient de dire, je disais juste avant de raconter un conte breton, je disais que je venais du sud et que je racontais mes racines, et juste après je te dis que je raconte Jean des Pierres, qui est absolument pas dans mes racines, en tout cas pas celle que je connais, mais vu mon attachement à la Bretagne, ça ne m'étonnerait pas un jour de découvrir aussi des racines que je ne connais pas encore. Alors, en tout cas, on le sait tous les deux, il y a un cousinage très fort entre le sud, notamment les Alpes-Maritimes, la Provence, et puis la Bretagne, dans nos combats pour nos langues, par exemple, langues régionales, dans nos combats pour nos spécificités, notamment, tout à l'heure on parlait d'animisme et de paganisme, qui sont très forts dans nos deux régions, voilà, toutes ces choses-là, et pourquoi je raconte ce conte-là, qui a priori n'appartient pas forcément à ma culture? Parce que le conte est universel, parce qu'il est intemporel, et parce que quand je raconte Jean des Pierres, Si j'en suis émue, c'est parce que les pierres de chez moi pourraient raconter la même histoire. Les murs, les restanques qui sont dans ma région font exactement le même effet. Ou qui sont en Corse, je vois tout à fait des paysages du Cap Corse quand je raconte cette histoire magnifique. Parce que l'homme a toujours raconté la même chose partout dans le monde et quelle que soit sa culture. Et je crois que le message du conte et le message que les conteurs aujourd'hui, plus encore que n'importe quand, doivent véhiculer, c'est que l'homme a le même cœur partout, où qu'il se trouve sur Terre, le même sang et les mêmes larmes. Et ça, je crois que vraiment, il faut qu'on l'entende très fort.
Eh bien, merci Isabelle. Écoute, sur ces belles paroles, oh, je résiste pas. Est-ce que tu as encore une histoire à me raconter? Allez, une dernière et puis après on arrête. Vas-y, je t'écoute.
Allez, on essaye alors une bien de chez moi, de chez
oui,
de
oui, local. Parce que voilà, tu sais, là tu t'es après, voilà, j'ai vraiment envie d'entendre quelque chose aussi de l'image de ton pays en plus avec ce. Bah, on a un lien, en effet, les Corses et les Bretons, je crois qu'on est vraiment des cousins. Alors oui, vas-y, j'ai envie de t'entendre.
Alors, je ne vais pas t'emmener en Corse, je vais t'emmener juste dans les montagnes, parce que si je t'emmène en Corse, ça va être trop long et on n'aura pas le temps. Mais je vais t'emmener dans les montagnes au-dessus de Nice, je vais t'emmener dans le village de Belvédère. Belvédère, en patois, on le nomme... Bon, Belvédère, c'est parce qu'évidemment, il y a une très belle vue. On l'appelle Barvert. Bon. Mais, tu sais... Parfois, on donne des noms aux habitants des villages dont on ne, sur lesquels on ne se questionne pas et pourtant, on devrait se questionner. Et par exemple, à Belvédère, en patois, on appelle les habitants des Banesses. Alors, quand ce n'est pas en patois, c'est des Bévérinques, ok, Barvert, Bévérinques, mais les Banesses. Et moi, un jour, je me suis posé cette question. Pourquoi on les appelle les Banesses? Alors, je savais que les Banes, c'était les cornes, mais pourquoi les cornes? Un jour, je suis allée un peu derrière l'église là, de Belvédère, il y a des bancs en pierre. Et sur les bancs en pierre, je pense qu'en Bretagne, c'est pareil, il y a toujours quelques vieux qui sont là et qui discutent. Et les vieux, tu le sais, toi qui es conteur, c'est la mémoire vive d'un pays. Et je leur ai posé la question, pourquoi on appelle les Bévérinques les Banesses? Et là, il y a une petite vieille d'entre les vieilles, la mémoire personnifiée, qui me répond, Pitchounette, ça c'est vieux ce que tu me demandes là. Je dis, c'est vieux, mais moi j'ai un peu de temps et j'ai envie d'écouter. Alors on s'est assises toutes les deux. Elle m'a raconté que les Banesses, ça remonte au temps des pagans. Les pagans, c'était des brigands. Ils s'étaient installés entre les deux aiguilles de Saint-Sauveur, au-dessus de Belvédère, en face. Et de là, ils faisaient régner la terreur sur toute la vallée. Ils réclamaient tous les mois ce qu'ils appelaient l'impôt. L'impôt, c'était un petit sac d'or, mais c'était aussi la plus jolie fille du village. Alors le sac d'or, tu te doutes bien, Michel, on ne le revoyait plus jamais, évidemment. Le souci, c'est que la plus jolie fille qui partait avec le sac d'or, on ne la revoyait plus jamais non plus. Et chaque mois, une fille était sacrifiée comme ça avec un sac d'or, sinon le village, les villages seraient mis à feu et à sang par les pagans. Le jour est venu où des jeunes filles, et jolies en plus, il n'en est pas resté tant que ça, et la seule qui restait, c'était la fille du maire. Et le maire, premier homme du village, il ne pouvait pas ne pas donner l'exemple, il a envoyé sa fille, il était en pleurs, il était désespéré. Elle, ce matin-là, elle est arrivée. Toute fraîche et pimpante, pas affolée du tout. Elle avait dans sa main un bouquet de fleurs des champs, et dans l'autre, elle tenait le petit sac d'or. Elle a rassuré tout le monde, elle a dit « Ne vous inquiétez pas, je redescendrai ». Tout le monde l'a prise pour un peu folle, mais ils se sont dit que c'était le désespoir qui l'égarait. Et elle est partie avec son bouquet de fleurs sur le chemin des aiguilles de Saint-Sauveur, on l'a vu disparaître. Là-haut, quand elle est arrivée, elle a essayé de repérer tout de suite le chef des pagans, où elle n'a pas eu de mal. C'était certainement l'être le plus sale, le plus laid et le plus bête qu'elle avait rencontré de toute sa vie. Il lui manquait des dents sur le devant et le peu qui lui restait était gâté. Sa barbe n'était plus rousse, ni grise, ni... Elle était sale. Ses yeux étaient malicieux d'une malice du diable. Elle s'est avancée vers lui. Comme le font les jeunes filles qui ont un attrait pour le garçon vers lequel elles vont. Elle l'a minaudé, elle a une chaloupe. Et lui, si peu habitué à ce genre de traitement, a laissé faire. Elle s'est approchée au plus près, elle est venue presque contre lui. Et lui s'attendait à une douceur. Mais de son bouquet de fleurs des champs, elle a sorti un poignard qu'elle lui a enfoncé dans le ventre. Sans demander son reste. Lui, il est tombé là, raide, mort à ses pieds. Et elle, profitant de ce moment de panique, scapavilla, elle a mis le chemin sous ses pieds, elle a couru, elle a couru, elle a couru, elle est retournée au village. Quand ils l'ont vu arriver au village, ils sont tombés à genoux, mains jointes, ils ont prié tous les dieux du ciel. Et puis elle leur a expliqué. Et là, ils ont su que il ne leur restait que quelques heures. À la nuit tombée, les pagans arriveraient pour mettre à sac le village. Le souci, c'est qu'à cette période de l'année, les bêtes étaient à l'estive et les hommes, en âge et en forme de combattre, étaient avec les bêtes à l'estive. Il restait au village les femmes, les enfants et les vieillards. Il restait au village quelques chèvres, la cabraille des villes, qui servaient pour les besoins quotidiens, le lait des enfants. Et pour les garder, il y avait un jeune berger. Et ce jeune berger est arrivé, il a dit « Moi, j'ai une idée. » Alors, comme on n'en avait pas d'autres, on l'a trouvé un peu farfelu, mais on a suivi. Chacun est rentré chez soi et chacun est ressorti avec le plus de lanternes, de lampes à huile possible. Le petit berger a commencé à jouer du fifre et les chèvres habituées sont venues vers lui. Il a pris chaque lampe et il l'a allumée chaque lampe. Et chaque lampe, il l'a accrochée à une corne de petite chèvre. Et chaque chèvre a eu ses deux lampes. Et à chaque main de chaque enfant, à chaque main de chaque femme, à chaque main de chaque vieillard, il a suspendu une lampe. Puis, tout en jouant du fifre, il a pris la tête de la procession et il est monté sur le chemin qui menait aux aiguilles de Saint-Sauveur. La procession s'est étirée et les lampes ont éclairé le chemin. De là-haut, les pagans ont vu cette procession monter vers eux. Et deux cornes à chaque chèvre, même quand il n'y a que 10 ou 20 chèvres, ça fait quand même pas mal de lampes accrochées. Deux lampes à chaque main, ça fait quand même pas mal de lampes qui montaient. Et les pagans ont cru que les bévérins avaient soulevé une armée contre eux. Alors eux, ils étaient méchants, ils étaient bêtes, mais ils étaient ni braves ni nombreux. Et ils n'avaient plus de chef. Alors, ils ont pris leurs jambes à leur cou et ils sont partis de l'autre côté de la vallée. Des pagans, on n'en a plus jamais entendu parler, parce que quand les bévérins sont arrivés au campement des pagans, ils n'ont plus retrouvé qu'un feu à moitié éteint, des cendres et des affaires emportées à la hâte. C'est comme ça que cette nuit-là, une petite cabraille des villes, un petit groupe de chèvres a sauvé, sans le savoir, tout un village, toute une vallée. C'est pour ça qu'en leur honneur, depuis, on appelle les bévérinques les banesses, les cornues, les cornes, en hommage à ces petites chèvres qui, par obéissance à leur berger, ont sauvé toute une vallée définitivement de ces pagans, de ces brigands. Voilà pourquoi on appelle les bévérinques les banesses.
Merci Isabelle. Alors c'est marrant, tu vois qu'on a vraiment des similitudes. Hein. Quand tu parles des pagans, eh bien mes amis finistériens, quand on leur parle des pagans, on pense tout de suite au pays pagan. Sur la côte nord du Finistère, du côté de Kerlouan, eh bien il y a ce qu'on appelle le pays des pagans. Et les pagans, ce sont des gens qui, à l'époque, étaient beaucoup goémoniers, et des pêcheurs très pauvres, et ça existe encore, la tradition du pays pagan. Il y a plein d'histoires aussi qui se racontent. Entre autres, on dit que c'était des pilleurs d'épaves, etc. Enfin, tout ça, il y a toute une légende. Et ce mot pagan, chez nous, bretons, tu vois, ça a une autre résonance.
Et nous, chez nous, ça renvoie au paganisme.
Hein. D'accord, c'est un paganisme. Oui, oui.
Voilà, je pense que ça fait référence à ça dans cette légende-là aussi.
Tout à fait, oui. Eh bien, Isabelle, je te remercie. Et puis, je te souhaite tout ce qu'on peut te souhaiter de meilleur, hein, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'oreilles et beaucoup d'histoires, en espérant que voilà, l'année prochaine sera un peu plus agréable pour nous.
Mais écoute, c'est ce que je souhaite à tout le monde, à toi en particulier, et puis à tous nos amis artistes de la parole et tout le reste, les techniciens et tous ceux qui sont dans l'ombre et qu'on ne voit pas sur scène et sans qui on ne pourrait pas grand-chose. J'espère que 2021 va nous apporter enfin le partage à nouveau.
Merci Isabelle. Eh bien voilà, cette émission s'achève. Et avant de vous quitter, je voudrais vous offrir une citation d'un monsieur pour qui j'ai une grande admiration, de monsieur Henri Gougou. Il a dit comme ça, on ne décide pas d'être conteur. C'est l'oreille des autres qui nous fait conteur. On vous écoute. Vous parlez, donc vous êtes conteur. Le conte est un art vivant, je dirais même immortel, dans la mesure où il vient de si loin et où, je l'espère, il va si loin. Il dépasse le simple mouvement d'une vie d'homme. Voilà. Au revoir et au mois prochain.
Ça va faire des histoires.
Oh, ça va faire des histoires.
Ça va faire des histoires.
Ça va faire des histoires.
Ça va faire des histoires.